Chers frères et sœurs et chers amis, notre étude concerne « J'ai choisi le Christ » par rapport, par exemple, à Bouddha ou d'autres. Cette étude est un peu trop longue pour la faire d'une seule fois, ou si nous devrons la faire en deux fois. Aujourd'hui, nous aurons la première partie. Contrairement à ce que certains pensent, le christianisme est essentiellement une religion d'action. La religion, a écrit Whitehead, est ce que l'homme fait de sa solitude, mais elle pose également le principe de communion fraternelle, car il est impossible à l'homme d'éviter de rencontrer d'autres hommes et nulle vie ne peut manquer d'être en tout premier lieu une vie sociale. Contrairement au bouddhisme qui prêche la suppression de tout sentiment et passion, la recherche d'une vie retirée du monde et loin de ses soucis, eh bien, le christianisme incite plutôt les hommes à éduquer, à civiliser leurs passions et les diriger vers des voies appropriées en vue de l'accomplissement d'œuvres utiles. Le christianisme n'enseigne pas que le corps est indigne et misérable, ou la prison de l'âme, qu'il faut par exemple mépriser. Non, le christianisme n'exhorte pas à mépriser le corps, mais à le maîtriser et à le plier à l'obéissance du Christ. Il va plus loin encore, il proclame que le corps est le temple du Saint-Esprit, marquant par là la dignité merveilleuse du corps humain qui peut être habité et dirigé par la vie divine. Un chrétien doit vivre dans le monde. La méditation et le recueillement n'est pas pour lui une évasion, une sorte de refuge pour une âme inquiète et délicate. Se souvenir de Dieu, de ses dons, de ses exigences, cela lui remet les pieds sur la terre, arme sa volonté pour les combats de la vie quotidienne et renouvelle sa vigilance. Les talents naturels dont il lui arrive d'être pourvu sont considérés par lui comme un don de Dieu qu'il est de son devoir de cultiver et d'utiliser, chacun suivant sa capacité et pour la gloire de son Dieu. Comme il est aisé de s'en apercevoir, car voyez-vous un tel système religieux dans lequel la joie de l'âme est dans l'action ouvre le chemin au progrès et à la prospérité en premier pour l'esprit et l'âme. Voyez-vous, chers amis, sans Dieu, tout reste absurde. L'inquiétude et l'angoisse, il est vrai, sont le propre de l'être humain du fait de sa qualité d'être pensant. Placé au milieu d'un univers qui l'écrase et le domine de toutes parts dans l'espace et dans le temps, l'homme nourrit pourtant l'ambition de connaître la totalité de cet univers dont il dépend. L'homme est borné dans sa nature, mais infini dans ses vœux. La science satisfait en partie ses prétentions, l'aide à se rendre compte que cet univers peut être compris et qu'il exprime un ordre, révèle une certaine unité, semble diriger vers certaines fins. Mais comment expliquer tout cela sans Dieu? Oui, sans Dieu, tout devient absurde. Camus le sait mieux que quiconque. Aucune explication ne pouvait être donnée et la vie devenait ainsi que Macbeth l'a décrite, un conte raconté par un idiot et plein de bruit et de fureur et ne signifiant absolument rien. Et si la vie était à ce point absurde, le pessimisme de Schopenhauer, le mépris et le dégoût du monde qu'il proclame, l'horreur de vivre et le néant qu'il prêche seraient pleinement justifiés. Or, la création démontre qu'il y a eu un créateur à l'origine. Les êtres moraux et intelligents impliquent l'existence d'un créateur capable de les engendrer. Comme je l'ai lu plus tard dans l'Ancien Testament, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, et le firmament l'annonce. Seule l'accoutumance, elle nous empêche de nous entasier, ou de plutôt nous extasier à chaque pas. Je répète pour que ce soit bien compris, c'est l'accoutumance qui nous empêche de nous extasier. Et le génie humain a certainement réussi à percer quelques-uns des mystères de la création, inventer certaines choses, mais inventer, c'est également découvrir ce qui déjà existe et que Dieu a créé. Les merveilles de la science ne sont que les merveilles de Dieu. Qui a inventé l'atome et sa désintégration, lancé les astres dans l'espace sur leur orbite propre, déterminé les lois de leur révolution? Oui, qui, le premier, a produit la lumière et l'électricité? La création postule un créateur capable de merveilles et de merveilles qui nous dépasse. Cette méthode d'approximation successive pour aller à Dieu est la méthode intellectuelle qui procède du connu pour se diriger vers l'inconnu. Un autre moyen de connaissance, l'ordre moral, celui-là, existe également. Je l'expérimentais inconsciemment tout au fond de mon être. Il débute par la distinction entre le bien et le mal et que tous nous savons faire, car nous savons faire surtout le mal, et dont aucun non-moral ne peut douter de cela. La science a découvert l'existence d'un ordre cosmique, et dans ce cas, pourquoi n'existerait-il pas également un ordre moral? Ordre moral dont les lois non écrites sont gravées au plus profond de nos cœurs et de nos consciences. Or, puisque cet ordre moral, qui exige le triomphe du bien sur toutes les forces du mal et de l'injustice, de la souffrance et de la mort, ne peut se réaliser sur cette terre. N'est-il donc pas juste de croire à l'existence d'un être suprême, constamment attentif aux bonnes actions des justes et aux forfaits des méchants, dans le but de rétablir un ordre moral et spirituel que l'univers semble impuissant à instaurer? Et voilà pourquoi l'homme, devant l'injustice, devant la souffrance et la mort, a cherché en Dieu sa consolation et, ce faisant, affirme sa croyance en une justice souveraine et incorruptible. C'est la raison pour laquelle également Socrate déclare ne pas avoir peur de mourir car il croyait à quelque chose après la mort, quelque chose de bien meilleur, surtout pour les bons, que pour les méchants. Voyez-vous, chers amis, la grande tâche, la tâche morale de l'homme, consistera à promouvoir et promouvoir en quelque sorte cet ordre, si vous voulez, cette harmonie universelle. Car Confucius concevait Dieu comme une personne ayant volonté et intelligence, mais aussi comme étant l'ancêtre de l'humanité, rendant ainsi Dieu trop humain. Et le célèbre philosophe fit valoir toute l'importance de la piété filiale, ordonnant à chacun de respecter, soigner et vénérer ses parents, non seulement du temps de leur vivant, mais même après leur mort. À l'instar de son contemporain grec Socrate, Confucius pensait, lui pensait que l'homme à l'origine était fondamentalement bon et avait été rendu mauvais par la société. Aussi était-il du devoir de chaque individu d'apprendre à se connaître pour s'efforcer ensuite de cultiver et améliorer ses qualités morales et de combattre ses défauts et ses imperfections. La conception qu'il donne de l'empereur, fils du ciel, possédant sur ses sujets un pouvoir suprême spirituel et séculaire, qui fait de lui le souverain maître de leur corps et de leur âme. Or, le bouddhisme n'est pas à comparer au christianisme. Le bouddhisme est un système religieux qui, lui, s'identifie avec le nom d'un homme, son fondateur appelé Sakyamuni ou Bouddha, qui signifie l'illuminé, ou encore Gautama, son nom de famille. L'enseignement de Gautama contient des pensées morales élevées et même attachantes. Il apprend aux hommes la nature transitoire de l'univers, le néant de tout ce qui existe et la compassion pour tous leurs compagnons d'existence et de souffrance. Il proclame l'égalité de tous les hommes, plaide en faveur de la liberté sociale, dénonce la guerre et l'usage de la force et interdit de tuer les animaux, etc. Mais un tel système manque de spiritualité car il ignore tout sentiment, absolument tout sentiment, de dépendance à l'égard d'une puissance supérieure, ne repose sur aucun modèle extérieur d'autorité et il nie par suite l'existence même de Dieu. Dans le bouddhisme, toute idée de Dieu est laissée de côté. Il n'y a rien de plus élevé que l'homme et tous les efforts de celui-ci doivent tendre à échapper à sa propre misère. La condition de chaque être humain dans cette vie est la conséquence et l'équivalent exact de ses actes au cours des vies précédentes. Et tout naît, évolue et s'évanouit conformément à une loi de cause à effet absolument rigide. Dans la longue chaîne de vie, l'homme est condamné à renaître plusieurs fois à la souffrance et à la misère afin de pouvoir reprendre la lutte vers l'illumination juste à l'endroit où ses prédécesseurs lui-même, au cours de ses vies successives, l'ont abandonné. Suivant la philosophie bouddhiste, tout est douleur. La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, et tout est douleur parce que tout est impermanent. L'homme est un malade, malade de l'existence. Il faut le sauver non pas du mal, mais de l'existence même qui est la douleur. L'homme ne sait pas d'où il vient, mais il sait qu'à cette existence doit normalement succéder à une autre existence, meilleure ou pire, suivant la qualité de l'existence précédente. La perspective d'une nouvelle existence qui sera suivie encore d'autres existences est source de ce grand sentiment de l'impermanence. Donc de l'impermanence, vous avez bien compris. Et le mouvement du samsara risque de continuer éternellement. Ce qui maintient donc l'homme dans la ronde des existences, c'est l'attachement aux choses, à l'existence, et c'est le désir. C'est donc au désir qu'en définitive, il faut s'attaquer si l'on veut sortir de la ronde des renaissances. Le nirvana est le stade que l'on atteint après s'être purifié par des actions et pensées bonnes et désintéressées au cours de vies successives, lorsque par une série d'expériences intérieures, on découvre la vérité suprême et échappe à la roue. Le paradis est donc la cessation de la série d'existences successives. Les éléments de vie de l'homme parfait, se dissolvent définitivement et aucun nouvel être ne naît à la souffrance. Les sages disparaissent et s'évanouissent comme la flamme d'une lampe, donc d'une existence, plutôt on peut dire carrément d'une extinction même complète, c'est ça. Alors, il paraît qu'au cours des siècles, ce système d'humanitarisme, sans vie future et sans Dieu, a subi de profonds changements pour devenir une vaste jungle de principes contradictoires et d'idolâtrie populaire. Il a passé de l'athéisme et du matérialisme au théisme, au polythéisme et au spiritualisme. Des schismes se produisirent et, en fin de compte, deux branches se constituèrent, le petit véhicule et le grand véhicule. Le petit véhicule tel qu'il est pratiqué à Ceylan, en Birmanie et au Cambodge, s'en tient strictement aux enseignements de Bouddha comme professeur et non comme Dieu. Le grand véhicule, par contre, de son côté, déifie carrément Bouddha et a ajouté une dizaine d'autres Bouddhas qui personnifient les qualités ou désirs et de multiples saints, ou on peut aussi dire bodhisattva. Je répète, bodhisattva. C'est un drôle de nom, mais c'est ainsi. Chers amis, mais il ferait bon de revenir ensemble au christianisme. Voyez-vous, il est clair que le premier pas à franchir est d'accepter Dieu et de simplement reconnaître son existence. Seulement ensuite, Dieu permet à ceux qui l'aiment de partager sa sagesse et de connaître ses secrets. L'homme naturel, quelle que soit la mesure de ses talents, de sa moralité, de son éducation, et quel que soit son degré d'intelligence ou de culture, est aveugle et parfaitement incapable de connaître la vérité spirituelle, car l'esprit charnel est ennemi de Dieu. « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, dit Jésus-Christ, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Il faut donc être spirituel pour connaître des choses de l'esprit, et celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit n'a besoin d'être instruit par personne pour connaître toutes choses au sujet de la vérité. Or, voyez-vous, les choses de l'esprit n'ont aucun sens pour l'homme naturel. C'est folie pour lui. Oui, pure folie en vérité. Et comme tel, l'apôtre Paul n'a pas hésité à qualifier le fait incroyable et si choquant pour le bon sens et la raison humaine que Dieu s'est fait homme et est mort d'une façon ignominieuse sur la croix pour sauver les hommes. Et l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il parlait à Césarée, s'est vu traité de fou par le gouverneur romain Festus. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a donc plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. L'homme naturel n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui, et il ne peut le connaître, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais voyez-vous, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Le pari bien connu de Pascal dans ses pensées me revint alors à la mémoire. Il l'exprime en ces termes. Dieu est ou il n'est pas. Par-delà la raison, il se joue un jeu dont le sens diffère selon que Dieu est ou n'est pas. Il faut nécessairement choisir. Cela n'est pas volontaire. On est embarqué, partant de notre point de vue personnel. Voyons maintenant ce que l'on a à perdre ou à gagner en gagnant que Dieu existe ou n'existe pas. La règle des probabilités et des enjeux prouve ainsi que Pascal l'établit qu'en pariant pour Dieu, si Dieu n'existe pas, le joueur ne perd après tout qu'un bien fini d'une qualité très incertaine. Il prendra tout au plus le risque de mener une vie dans son ensemble noble et avantageuse, mais en pariant contre Dieu. Or, si Dieu existe, il perdra une infinité de vies infiniment heureuses et vice-versa. Ce pari met l'homme devant une alternative terrible, un choix décisif qu'il devra faire tôt ou tard. À côté, la pensée du célèbre jésuite philosophe le père Valenzin, si Dieu n'existait pas, ce n'est pas moi qui aurais eu tort de croire en lui, mais c'est lui qui aurait tort de ne pas être. De même, cette boutade de Voltaire, si Dieu n'existait pas, ceux qui croient en lui pourraient se féliciter de l'avoir inventé à leur propre bénéfice. Ou celle encore de Sacha Guitry. Nier Dieu, c'est se priver de l'unique intérêt que peut avoir la mort. Or, persuader, comme Aristote, que la meilleure façon d'apprendre à jouer de la harpe est d'en jouer, je pris donc la décision d'accepter Dieu comme une réalité de tous les jours, me soumettant complètement à lui sans aucune condition, convaincu que pour trouver la vérité, il faut d'abord se libérer des opinions professées comme vraies par les humains. Je désirais donc croire dans mon cœur, non seulement dans ma tête. Dans ce nouvel état d'esprit, j'entrepris de relire quotidiennement la Sainte Bible, phrase par phrase, lentement et avec recueillement, m'efforçant à tout moment d'entendre carrément la voix de Dieu. Et j'en vins même à prier dans ma Bible plus encore que je n'y lisais. Et bientôt, voyez-vous, la lumière complète se fit dans mon esprit. J'étais entré en relation avec le Christ et mes doutes commencèrent un à disparaître. Les écailles semblaient s'être détachées de mes yeux et ce qui m'avait paru si difficile à comprendre m'apparaissait maintenant simple et lumineux. Comme tout est possible avec Dieu, je pouvais accepter sans réserve la totalité des écrits de la Bible. Même ces contradictions très apparentes du reste. Car voyez-vous, comme je m'en rendais compte, c'est Jésus-Christ qui, en définitive, donne à l'Écriture sainte toute sa signification et toute son authenticité. Il existe dans ce livre suffisamment de lumière pour éclairer ceux qui désirent l'être. Voyez-vous, la lecture de la Bible m'a permis de prendre pleinement conscience de ma misère et de mon indignité et de comprendre que semblable en cela aux autres hommes, aux hommes naturels, j'étais souillé et corrompu, et que mes iniquités avaient creusé un abîme entre Dieu et moi, et mes péchés l'avaient fait se valoir la face, donc carrément se faire voiler la face de Dieu, pour tout simplement pas m'entendre. Oui, chers amis, je crois que il nous faut bien comprendre que dans cet abîme dans lequel nous vivons et donc qui nous sépare de Dieu par nos péchés, eh bien, il faut donc pas se voiler la face pour ne pas entendre la voix divine. Car tous nous avons péché, nous devons le savoir. Et nous devons jamais oublier que nous sommes imparfaits. Je n'étais donc pas une exception, et le salaire du péché est la mort, et c'est le feu éternel dans l'abîme de l'enfer, est-il dit dans sa sainte parole. Pourtant, voyez-vous, Dieu, dans sa miséricorde infinie, a tellement aimé le monde qu'il lui donna son Fils unique et bien-aimé, qui est même descendu sur cette misérable terre pour souffrir et mourir à notre place, afin que son sang répandu, puisse effacer, chers amis, les péchés du monde. Nous sommes ainsi réconciliés avec Dieu le Père et consacrés enfants de Dieu, et ceci grâce à notre foi en son Fils bien-aimé. La Bible déclare maintenant, « Foi que si je devais être sauvé, » elle dit ça plusieurs fois, la Bible, « que si je devais être sauvé, ce ne serait pas à cause de mes bonnes œuvres, pas du tout, ou à cause des sacrifices que je m'imposerais ou de mon propre mérite, mais seulement en raison de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, et ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, il ne vient pas de vos œuvres, car nul ne doit pouvoir s'en glorifier. Donc, chers amis, nous avons bel et bien besoin d'un sauveur personnel. Le salut est un don gratuit de Dieu. Il ne peut être ni gagné, ni acheté, ni payé de quelque manière que ce soit. Il ne peut être obtenu ni par des œuvres, ni par des prières, ni par des sacrements, ni par le jeûne, ni même par la pratique de l'ascétisme, ni par une cérémonie religieuse quelconque. La miséricorde de Dieu nous déclare juste en vertu de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. La loi demandait notre vie. Jésus-Christ a donné la sienne pour nous sur la croix à notre place. Ainsi, le salut est à la portée de tous et ne nécessite qu'une démarche, c'est de croire. Dieu nous déclare qu'il nous aime en Jésus-Christ, et cela indépendamment de nos œuvres. Il nous fait un don, et ce don, nous n'avons rien d'autre à faire que de l'accepter, l'aimer, et aimer surtout celui qui le donne. J'étais un pécheur, oui, incapable de me sauver moi-même. J'avais besoin d'un sauveur, et personne d'autre ne pouvait l'être que Jésus-Christ, dont le sang de la croix m'a purifié de tout péché, et il m'a réconcilié avec Dieu. Il est mort pour mes péchés, afin que je puisse posséder la vie éternelle. Nous ne connaissons et ne pouvons connaître Dieu que par Jésus-Christ. Nul ne va au Père que par lui. Donc, j'acceptais le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Chers amis, nous devons bien comprendre que le salut est une affaire strictement personnelle entre notre Sauveur et nous, car croire au Christ signifie bien davantage que croire à certaines choses qui le concernent. Adhérer intellectuellement aux vérités de l'Évangile n'est pas suffisant. De nombreux chrétiens, authentiques même, fidèles et soumis à la loi du Christ, ont une croyance intellectuelle plutôt qu'une foi véritable. La foi n'est pas un acte de l'intellect par lequel on accepte tout ce que l'Église prescrit de croire, ou une simple adhésion à des vérités enseignées. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir pareil à des enfants et à la voix de Dieu. Il faut donc s'abandonner avec confiance comme l'enfant à la voix de son père. La foi, c'est cela même. Avoir foi, voyez-vous, c'est avoir tout simplement confiance, confiance totale et absolue en l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Confiance et abandon. La foi qui nous rend chrétiens, c'est mettre humblement toute notre confiance personnelle dans le Sauveur vivant. Il faut d'abord se repentir comme Dieu nous l'ordonne et se soumettre d'une façon entière, absolue, sans aucune réserve, à notre Sauveur personnel, lui demandant de nous sauver et de nous pardonner nos péchés. Voyez-vous, lorsque un homme se confie sans restriction à son Sauveur, eh bien ses péchés lui sont pardonnés et le Christ entre alors dans son cœur. La foi véritable naît d'un contact personnel, cœur à cœur, âme à âme, avec le Christ vivant, donc d'une expérience personnelle qui jaillit du plus profond de l'être intérieur et transforme toute notre vie. Pour le véritable croyant, Dieu revient réel, il devient donc une réalité, on le connaît, on l'aime et surtout on l'adore. Il peut dire avec saint Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Dieu est alors une source de joie. Faire sa volonté devient le principal but de la vie. Toutes les choses prennent un aspect totalement différent maintenant. De nouvelles formes de pensée commencent à se dessiner dans notre esprit. Une nouvelle échelle de valeurs se dresse devant nos yeux. On aime ce qu'on haïssait auparavant et on haït ce qu'on chérissait le plus. De nouvelles normes de vie, de nouveaux motifs d'agir, de nouvelles ambitions prennent donc corps maintenant en nous. On acquiert de nouveaux goûts, des goûts spirituels cette fois, qui font apprécier ce qui semblait d'ordinaire rebutant, ennuyeux ou même nous laisser indifférents. Un pouvoir nouveau pour surmonter le péché nous est donné, car voyez-vous, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. On aime alors avoir recours à la prière, la réelle prière qui est une véritable conversation, un vrai tête-à-tête avec Dieu, une communion avec lui, car prier, ce n'est pas réciter du bout des lèvres machinalement des phrases, des formules apprises par cœur, évidemment. Prier, voyez-vous, c'est se trouver réellement dans la présence de Dieu. Et c'est le moment de l'âme qui s'adresse au Dieu Tout-Puissant que le chrétien connaît comme son Père bien-aimé. Et ces changements vont donc indiquer que nous sommes passés de la mort à la vie et ils sont le signe qu'une nouvelle vie nous est donnée et notre esprit mort, inactif, dont nous avions hérité de notre Père terrestre en naissant de la chair, a été rendu vivant par le Saint-Esprit et nous naissons maintenant à nouveau. Cette nouvelle naissance est nécessaire, car sans elle, un homme naturel ne peut obéir ou plaire à Dieu, ni même le comprendre. Nicodème était un intellectuel, il était fort instruit des questions bibliques et certainement profondément religieux du fait de ses fonctions de chef d'Israël. Pourtant, voyez-vous, Jésus lui a dit « Si un homme ne naît à nouveau, c'est la nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut donc que vous naissiez de nouveau. Nous devons donc naître une seconde fois, c'est ce qu'on appelle « to be born again », être né de nouveau. Une seconde fois, cette fois-ci, de l'Esprit de Dieu pour nous amener dans la famille de Dieu, pour être capable de ressentir cette communion intime et ce rapprochement avec lui dont la chute d'Adam nous avait carrément privés, et aussi pour recevoir évidemment la vie éternelle. Cette expérience de renaissance n'est pas un rêve ou un jeu de l'imagination, mais une réalité bienheureuse, comme je le constatais bientôt dans tout mon être, et comme quiconque remettra sa vie entre les mains du Seigneur s'en apercevra également. Dieu, par son Esprit Saint, vient faire sa demeure dans l'homme, dans la femme chrétien. Quel paradoxe insoutenable pour beaucoup. Et pourtant, le mystère chrétien laisse entrevoir ici sa dernière profondeur. Une parole de saint Paul y projette une magnifique clarté. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui vit en moi. Bien entendu, les manifestations de la Renaissance n'ont pas eu lieu toutes en même temps. Ce n'est pas automatiquement, hélas, que disparaît le vieil homme, pour employer le langage de saint Paul. L'homme nouveau n'apparaît que peu à peu dans un travail intérieur qui a pour but la sainteté. Ce long travail qui doit se poursuivre chaque jour, oui, chaque jour, avec le secours et dans la communion de Jésus-Christ, eh bien c'est ça, la sanctification, car sans elle, nul ne verra le Seigneur. Dans mon cas, le changement se produisit graduellement, mais je pouvais néanmoins le sentir et m'en rendre compte quotidiennement. Je souhaitais par-dessus tout autre chose que toutes ces folies éphémères de ma vie passée et toutes ces vanités d'un monde pécheur et sans Dieu. Les paroles suivantes de la Bible me revinrent à l'esprit, tel un fait lumineux dont j'ai vu personnellement et intimement l'expérience, que quiconque est dans le Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, toutes choses sont devenues nouvelles. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner le témoignage d'une merveilleuse sœur en Jésus-Christ. Ça vaut la peine d'écouter ce témoignage. Croyez-moi, dans un village, un athée célèbre même, venait de terminer sa conférence anti-religieuse. Il invita donc ses auditeurs à engager la discussion sur ce qu'il avait dit. Il n'y eut dans toute la salle qu'une vieille femme courbée qui osa relever le défi. Elle s'approcha du conférencier et lui dit « Monsieur, j'ai une question à vous poser. » « Parfait, chère madame, posez-la. » « Il y a 10 ans, commença-t-elle, j'ai perdu mon mari. J'avais à l'époque 10 jeunes enfants et pas d'autre soutien que la Bible. Ce livre que vous traitez avec tant de mépris, elle m'a montré le chemin à suivre et en priant, j'ai reçu de Dieu la force pour y marcher. Ainsi, j'ai réussi à joindre les deux bouts et j'ai pu élever mes enfants honnêtement. Bientôt, il me faudra mourir, je le sais, mais je suis heureuse, car je vais au-devant d'une vie de félicité en la présence de Jésus-Christ, mon merveilleux Sauveur. Et maintenant, dites-moi ce que votre idéologie a fait pour vous. » Ma chère madame, répondit l'orateur, je ne voudrais pas vous ravir votre consolation, mais vous êtes à côté de la question, lui dit la femme en l'interrompant. Nous voulons savoir quelle aide vos théories athées vous ont apporté dans les jours difficiles et quelle consolation vous en avez escompté pour votre avenir. L'athée fit son possible pour éluder la question. Mais il eut beau se tortiller de tous les côtés, il demeura en reste d'une réponse. Ses auditeurs ne tardèrent pas à se placer du côté de la vieille femme, et le conférencier dut s'en retourner comme il était venu. Une fois de plus, la parole de Dieu s'est avérée véritable. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19. Dans les situations délicates de la vie, nous découvrons que si notre sagesse ni nos idéologies ne peuvent nous tirer d'affaire ou de nous consoler, il n'y a qu'une chose qui peut nous aider dans nos difficultés, c'est une foi simple et humble en Jésus-Christ. Ceci ressort également de l'anecdote suivante, car la mère de David Hume, le célèbre philosophe anglais, était une chrétienne convaincue, mais elle se laissa éblouir par les idées de son fils et le suivit dans les égarements de son scepticisme. Les années passèrent et un jour elle sentit approcher sa fin. Sur son lit de mort, elle écrivit à son fils « Mon cher fils, je suis très mal et je dévale la pente à toute vitesse. Ta philosophie ne m'est d'aucune aide dans ma détresse. Je n'ai ni consolation ni espérance. Je suis au bord du désespoir. Je t'en supplie, viens me consoler ou écris-moi comment je peux trouver du réconfort dans ta philosophie à l'heure de la mort. Ta chère mère mourante. » Voyez-vous, chers amis, les hommes peuvent vivre sans Jésus-Christ, mais ils ne peuvent mourir en paix sans lui. Les mots péché, pardon et paix, désespoir, ciel et enfer vous paraissent peut-être ridicules actuellement, mais je vous assure que ce sont de sérieuses réalités que vous devrez un jour ou l'autre regarder en face. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Ô notre Dieu puissant, nous te célébrons véritablement dans nos cœurs. Ce n'est pas un servile repos que tu exiges de nous, mais ce que tu nous demandes, c'est que nos pensées se tournent vers toi. C'est que nous te cherchions du fond de nos cœurs, que nous te bénissions, que nous t'invoquions durant les heures de cette journée qui doit nous être chère et douce en vue de toi uniquement. Voilà, Seigneur, ce que tes enfants doivent sentir. Daigne donc, nous t'en supplions, pénétrer nos cœurs de ces saintes impressions. Préserve-nous de l'entraînement de vains plaisirs et de pensées mondaines. Savons-nous si cette nuit même, nos âmes ne nous seront pas redemandées? Accorde-nous ton secours, ta miséricorde, afin que nous soyons réconciliés avec toi, afin que nous vivions d'une vie nouvelle, et que nous soyons unis à Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dieu puissant et bon, exauce nos prières, pardonne-nous nos iniquités, subviens à notre faiblesse, bénis nos familles, nos amis, aie pitié des malades, des affligés, convertis les incrédules et tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Étends ton règne sur la terre et que ton saint nom soit éternellement béni et glorifié. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, car ça c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et donc, comme je l'ai dit au début, cette étude est en deux parties, donc vous pourrez écouter la suite aussitôt que vous désirez, sitôt que vous le voulez. À bientôt donc, chers amis, merci pour votre écoute. Au revoir.